Chapitre 2 La bottine de l'homme brun. Mais je ne devais pas, du moins aujourd'hui, admirer l'adresse consommée de mon ami. Il laissa aller à sa fantaisie le jeune homme de la bottine vernie et raflée et m'entraîna dans un petit café qui donnait dans la rue. Une fois dans un coin, dans l'ombre, les bocs servis, après s'être assuré que personne ne pouvait nous entendre, Martin Numa me dit « Savez-vous qui m'a donné le nom et la qualité de ces jeunes gens qui me les a fait reconnaître sans les avoir jamais vus ?» Qui m'a dit pourquoi ils se trouvaient à la messe pour le repos de l'âme du banquier castanier, laquelle, entre parenthèses, a besoin de plus d'une messe. Non, vraiment, je ne m'en doute pas. Mais c'est l'ami Bessette. L'ami Bessette, fis-je étonné. Mais vous savez bien, l'ami Bessette de Béziers, qui est venu au moment de l'instruction nous raconter des histoires du Midi et de Sicile. Ah oui, j'y suis. L'ami Bessette, ami du banquier, du marquis de Carmine Santucci, le père de celui-ci. Parfaitement. L'ami Bessette, qui est devenu notre ami Bessette, aussi à nous les magistrats. Cet homme est l'ami Bessette du genre humain. Parfaitement. Dans sa faconde, il nous a révélé quelque chose. Oh, je ne dis pas de très intéressant, mais d'absolument premier ordre, comme importance. En vous parlant du passé quelque peu trouble du banquier castanier. Justement, le père Morrison, lui qui connaissait dans tous ses détails ce passé scabreux, a cru bon de ne pas se décider à nous en parler. Mais l'ami Bessette, lui, au contraire, a pensé qu'il devait tout nous dire pour nous permettre sur la voie à son avis la plus vraie. Mais il paraît en effet, on m'a dit quelques mots à ce sujet. À moi aussi, mais ces quelques mots ne pouvaient me suffire. L'ami Bessette nous a déclaré que nous trouverions dans la Gazette des Tribunaux tout au long les débats des deux graves affaires auxquelles fut mêlé le banquier castanier. Et vous vous êtes muni des numéros de cette époque. Et j'ai tout lu, tout appris. Oh, ce fut d'un fameux intérêt pour moi. Martin Numa alluma une nouvelle cigarette et reprit. Donc j'ai, grâce à l'indication de l'ami Bessette, parcouru la Gazette des Tribunaux, et vu que M. Castanier, à une époque déjà lointaine, avait reçu d'un de ses amis intimes un dépôt d'argent assez important, et qu'il le nia plus tard, à votre avis, le banquier Castanier avait reçu ce dépôt? Cela ne fait aucun doute. Mais M. Allary, son ami, eut le tort de ne rien exiger, confirmant son dépôt. M. Castanier pouvait le nier. Bref, M. Allary, n'ayant pu fournir la preuve matérielle du dépôt, fut condamné et ruiné. Mais M. Allary laissait, quand il mourut, une veuve la plus digne et la plus estimable des femmes, et deux enfants encore tout jeunes. Un garçon, une fillette âgée, elle seulement de quelques années. J'arrêtai Martin Numa. Et ces enfants, ce sont ceux de l'église, je gage. Le jeune homme brun et sa sœur. Oui, oui, tout bonnement. Le fils Robert, maintenant, est capitaine dans le Sud-Oranais, chef d'un cercle, directeur des compagnies d'études et de pénétration. Il a été cité à l'ordre du jour de l'armée plusieurs fois et décoré de la Légion d'honneur sur le champ de bataille. C'est un de nos officiers les mieux notés, appelé aux plus hautes destinées. Et ce garçon remarquable, fis-je observer, aurait pu se rendre coupable d'un tel forfait, gâcher ainsi la brillante carrière qui s'ouvre devant lui. Il aurait pu aller assassiner le banquier Castagnier. Ah, pardon, pardon, mon cher Courville, n'allons pas si vite en besogne et n'inculpons pas les gens sans les entendre. Et cependant, si les raflures de la bottine vernie du capitaine nous donnent la preuve qu'il est entré chez le banquier. Mais de cela, je ne doute pas le moins du monde. Je suis absolument sûr qu'il a vu M. Castagnier, qui lui a parlé. Alors, je veux simplement l'établir au point de vue juridique, parce que j'ai besoin de l'établir. Je suis sûr moralement que le capitaine est le visiteur brun. Oui, son assassin probable. Pas du tout. Le banquier était vivant, bien vivant, quand le capitaine a quitté son bureau. Et qui vous l'a dit? Mais le banquier l'a écrit. Je sursautais. Le banquier a écrit qu'il était vivant après cette visite. Très clairement. Voyons, mon cher, depuis quand les morts écrivent-ils? Oh, cela n'est jamais arrivé, que je sache. Eh bien, le banquier a écrit une lettre que nous avons trouvée non achevée, c'est vrai, malgré deux plumes cassées dans sa corbeille à papier. Vous avez raison, mais qui vous dit encore que cette lettre n'était pas écrite avant la visite du capitaine? Désiré. Comment Désiré? Il n'en a pas soufflé mot. N'a-t-il pas déclaré qu'il y avait quelqu'un chez son maître quand il passa la carte remise par le capitaine? Un client de la banque. Avec qui il parlait d'affaires? Le banquier ne pleurait donc pas? Assurément. Or, M. Castagnier a longuement pleuré quand il écrivit, quand il essaya d'écrire sa lettre. C'est vrai. Et dans cette lettre, il parlait d'un passé douloureux qu'il croyait à jamais oublier. Il parlait de concessions, de retour en arrière. Ah, M. Castagnier faisait par conséquent allusion à son différend avec le père du capitaine. Mais c'est certain. Oh, que s'est-il passé? Mon cher Courville, je le devine, je le vois comme si j'y assistais. Mais ceci ne nous regarde pas, pour le moment du moins. Nous n'avons, nous, à nous occuper que du passage de Robert Allary dans le cabinet du banquier, savoir si l'éraflure de sa bottine a été produite par la moulure de cuivre du pied du bureau. Mais si c'est bien la bottine du capitaine que le pied de la table a endommagé, alors toutes mes déductions deviennent fausses. Et je n'ai plus qu'à mettre la main au collet du capitaine, car c'est lui qui a assassiné M. Castagnier. C'est lui qui a volé la caisse du banquier. Et la lettre, demandai-je, la lettre écrite à 2002 plumes cassées, qu'en feriez-vous en ce cas? La lettre? Mais alors je devrais supposer que le capitaine, menaçant le banquier de révélation, de tapage, de scandale, l'a contraint à écrire cette lettre, et que le banquier, pleurant, vaincu, ne parvenant pas à écrire, l'a froissé, jeté, qui s'est encore défendu peut-être, et que l'apoplexie l'a frappé au cours de la lutte suprême. C'est possible, en effet. Alors, la scène aurait pu se passer également comme cela. J'achève, dit Martin Dumas, la nouvelle scène, le nouveau drame que nous construisons ensemble. Le banquier mort, le coffre se trouvait probablement ouvert. La vue de ce trésor, de ces paquets de billets bleus, de cette fortune, a tenté le capitaine, que veillant tout cet argent, pensant qu'en somme il était à lui, pouvait venir de son père. Et grisé par cet argent, ici en telle abondance, ajoutai-je alors, le capitaine, poussé par le désir de vengeance, se trouvant certainement encore dans un accès de fièvre coloniale, de saharite, dont subitement les cerveaux les mieux équilibrés se voient parfois accablés, Robert Alary s'est emparé de cet argent, que ne pouvait plus défendre le banquier mort, M. Castanier, le voleur de son père. N'est-ce pas cela, mon cher Numan ? Allez, allez toujours, fit mon ami. Continuez, établissez-moi le drame. Mais au moment où il accomplissait son vol, est entré dans la pièce Irma Castanier, venant sans doute, comme elle s'y était engagée, parler à son père en faveur de son frère Charles. Très bien, ensuite. Et le capitaine, en se voyant pris, a fait comme tous les voleurs en pareil cas. Il a tué. Parfait, continuez. Je repris vivement. Alors, dans la lutte qu'il engagea avec la malheureuse jeune fille, cherchant à étouffer ses cris, à étrangler Irma Castanier, son pied, en glissant sur le tapis, rencontra le pied de la table. La moulure de cuivre détériora sa bottine vernie, cette bottine qu'il porte encore ce matin. Martin Numa sourit. « Comme déduction, mon cher Courville, me dit-il, ce ne sonne pas trop mal. Vous venez de bâtir un beau scénario d'assassinat. Ah, je deviens un de vos bons élèves. Certainement, mais il est une chose plus étrange, plus grave, plus douloureuse encore, que vous ne soupçonnez pas, mon cher ami, et qui, plus que le crime, attire Robert Alary, non seulement à l'église, dans la rue de Pelletier, partout enfin où le capitaine espère rencontrer Madame Castanier et la sœur de l'infortuné Irma. Mais qu'est-ce donc cette chose si grave, si inattendue ? C'est que le capitaine Alary aime, entendez-vous, aime Jeanne Castanier. Je tressaillis à regarder Martin Numa avec des yeux aussi stupéfaits qu'incrédules. « Le capitaine Alary, lui dis-je, le capitaine Robert Alary, amoureux de la fille du banquier Castanier. Parfaitement. Oh, oui, mon cher, mais vous connaissez le fossé qui sépare la famille de cette jeune fille de celle du capitaine. Évidemment, mais raison de plus pour que cet amour existe. Oh non, impossible. Mais ça a toujours été comme ça. Montaigu et Capulet, Roméo et Juliette sont immortels. Ils sont de tous les temps, se voient tous les jours et partout. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi voulez-vous qu'une jeune fille, d'une part belle comme Jeanne Castanier, et d'autre part, un beau, vaillant, glorieux capitaine comme Robert Alary ne s'aime pas. Que seul ne recommence pas le tendre et éternel roman des amants que tout sépare et qui s'adore. Mon cher, c'est forcé, c'est fatal, et c'est logique. Cependant, si vous établissiez, mon cher Numan, si vous démontriez que Robert Alary et l'assassin du banquier et de Mademoiselle Irma Castanier. Et puis, vous regarderiez comme possible pareil amour. Mais comme certain, mon cher, comme certain, Robert Alary aime Jeanne Castanier, et Jeanne Castanier aime le capitaine Alary.